merci Grégory pour ce mot d'accueil. Je suis très heureux pour ma part, à défaut de participer directement à ce colloque, de pouvoir en présider la première matinée. Et c'est avec un grand plaisir également que je vais dans quelques instants laisser la parole à Nathalie Deprat, qu'il n'est pas nécessairement besoin de présenter, mais allons-y tout de même. Nathalie, donc spécialiste de Husserl, tout d'abord, auquel elle a consacré de nombreux travaux autour du thème de l'intersubjectivité, dans un premier temps, de nombreuses traductions que chacun connaît. Nathalie qui a ensuite travaillé beaucoup sur le dialogue que la phénoménologie peut nouer avec d'autres champs disciplinaires, donc soucieuse dans ses travaux des à-côtés ou des extérieurs de la phénoménologie. Et parmi les nombreux champs thématiques auxquels elle a consacré de ses travaux il y a quelques années, depuis quelques années, il y a le champ des émotions et en particulier la thématique importante de la surprise, thématique à laquelle elle a consacré un ouvrage il y a quelques années, un important ouvrage, et thématique dont Nathalie vient de me dire qu'elle fera l'objet d'un prochain livre, d'un deuxième livre sur la surprise, qui est donc à paraître l'année prochaine, en 2022, et qu'on attend avec impatience. Voilà. Il faut aussi rappeler que Nathalie a beaucoup insisté dans ses travaux sur la pratique phénoménologique, ou sur la question de savoir comment elle se pratique, et pas simplement donc... C'est pas simplement la question théorique de la méthode phénoménologique, c'est la question de la phénoménologie en pratique, et c'est notamment en suivant cette ligne qu'elle a été amenée à travailler autour de ce qu'on appelle la microphénoménologie. Et ce thème va être aujourd'hui donc au cœur de son intervention, qui a pour titre « Phénoménologie de la microphénoménologie ». C'est avec grand plaisir que je lui laisse la parole.
Merci. Merci Julien. Merci pour cette présentation. Merci Grégory pour cette organisation absolument magnifique de ce colloque. J'en dis pas plus, tu as déjà beaucoup expliqué les raisons et l'intérêt de ce colloque. Donc je ne vais pas prendre plus de temps vu notre timing, mais c'est un grand moment. Je pense qu'on en est tous conscientes et conscients. Donc je rentre tout de suite dans mon propos. Sans préalable. Donc, phénoménologie de la microphénoménologie. Un tel intitulé un air de déjà-vu. Edmund Husserl et son dernier disciple, son fidèle disciple Eugen Fink, ont tous deux cherché à établir la nécessité philosophique, phénoménologique, d'une phénoménologie de la phénoménologie. Pour Husserl, ce fut notamment à l'occasion du cours de 1923-1924, Philosophie première, qui propose une théorie de la réduction phénoménologique et exemplairement l'activité d'une épopée éthique universelle, comme le dit Husserl. Pour Fink, ce fut dans les années 1928-1932 et suivantes, le travail connu sous le nom de la sixième méditation cartésienne, qui dégage l'activité spécifique du spectateur phénoménologisant, comme il le dit, caractérisé par cette activité d'observation, de témoin, de l'activité de constitution propre à l'ego transcendantal. Par ses propositions spécifiques mais convergentes, le fondateur de la phénoménologie et son dernier disciple cherchent à établir la légitimité théorique de l'activité phénoménologique, celle de l'époque, celle de la constitution, donc des actes principaux de la méthode phénoménologique, et ce, en posant la nécessité d'une activité d'observation, de témoin, de l'activité opérante de l'ego lui-même, interne à l'ego, mais faisant émerger une capacité distincte à même de thématiser, comme on dit techniquement en phénoménologie, c'est-à-dire d'expliciter l'activité de l'ego lui-même. En différenciant clairement, de façon modale, l'activité observatrice de l'ego, activité aussi nommée désintéressée, prenant du champ, se mettant en retrait, pour le dire plus concrètement, de l'activité opérante, intéressée à l'objet, intéressée au monde, à l'action, aux autres, de l'ego constituant, eh bien, ils cherchent d'une part, ces deux auteurs, cherchent d'une part à expliciter cette dernière activité, donc l'activité opérante de l'ego, en l'identifiant pour elle-même, y compris en faisant ressortir ce qu'elle a encore de naïveté transcendantale, comme ils le disent l'un et l'autre, du fait de son attachement rémanent, de son intéressement à l'action même de constituer. D'autre part, il cherche à porter un coup d'arrêt à l'itération réflexive et indéfinie de la réflexivité, justement, que Husserl thématise quant à lui clairement, par exemple, dans son analyse de la scission de l'ego, de la Spaltung, de ses mois, passé, présent, imaginé, imaginant, réfléchi, réfléchissant. Ce risque, il est explicitement noté par les deux auteurs comme relevant de la possibilité ou du risque d'une régression à l'indéfini de la position réflexive, où le sujet se perdrait dans des miroirs un peu illusoires et à terme désincarnés de spéculation. Risque formulé très tôt à l'orée de la philosophie par Platon et Aristote, et dans une autre formulation, disons, avec cet argument de l'homunculus, du troisième homme, du petit homme dans l'homme, même si ce n'est pas tout à fait dans le même registre. Donc, en quoi la proposition de Husserl Finck règle-t-il ce problème philosophique millénaire de régression à l'infini, qui risque de nous perdre dans des vapeurs un peu éthérées de l'esprit, et peut nous placer désespérément hors sol face à une réalité incarnée, comme disait Rimbaud, la réalité rugueuse à étreindre. La proposition de Husserl Finck, il me semble, arrête ce vertige spéculatif en établissant un éthos, l'éthos de l'ego, qui fait émerger en lui-même la posture d'un témoin, d'un observateur, d'une observatrice, pratiquant une suspension de l'activité elle-même, de l'activité constitutive opérante, et y compris de l'activité réflexive, justement, et s'installant ainsi dans un retrait gagné par le désintéressement. On a donc affaire, avec cette proposition Husserl Finck, à un mouvement de théorisation de la phénoménologie qui contient en lui-même son incarnation via cette éthique suspensive portant sur l'ego et son action, et la référence à la pratique de cette suspension spécifique. Aujourd'hui, je voudrais essayer de voir comment la microphénoménologie s'inscrit dans cette proposition historique, comment elle en accentue encore la visée pratique et incarnée, et comment, corrélativement, elle se doit d'expliciter sa démarche en se confrontant à l'établissement spécifique d'une position d'observation d'elle-même. La microphénoménologie, en effet, c'est d'abord et avant toute chose une méthode. Et c'est sa vertu et sa qualité propre, et bien elle se définit comme une pratique méthodique de description fine du vécu spécifique d'un sujet singulier. Concrètement, elle tient sa spécificité dans son statut de méthode d'entretien, qui a pour objectif de dégager les composantes pré-réfléchies, comme il est dit, de mon expérience, au moyen d'un guidage par un sujet interviewant, lequel fait revenir le sujet interviewé sur un moment, un instant très délimité de son expérience. Il s'agit le plus souvent d'une fraction de seconde du vécu, soit qui a eu lieu récemment, soit qui a eu lieu il y a très longtemps. En ce sens, cette méthode d'entretien se distingue fortement des méthodes d'entretien les plus connues en sciences sociales, que l'on nomme les entretiens semi-directifs, lesquels sont construits à partir d'un guide d'entretien, donc d'un texte, recensant des thèmes et des questions préalables qui vont orienter l'entretien et fournir un matériau souvent à l'échelle d'une tranche de vie, voire d'une histoire de vie, du récit de ma vie. Dans le cas d'un entretien microphénoménologique, en revanche, le sujet interviewant propose au sujet interviewé des questions qui surgissent directement du moment vécu exploré, des questions qui ne sont donc pas préconçues, ce n'est pas un guide préalable, des questions qui accueillent le vécu et l'accompagnent plutôt qu'elles ne le déterminent par avance. Il s'agit de questions dont le format est ouvert, non inductif, comme il est dit. Ce sont des questions concrètement en mode « comment » et non en mode « quoi » ou « pourquoi ». Et elles visent à placer le sujet dans une relation vécue incarnée avec lui-même, dans ce moment de son expérience, et de lui permettre à mesure de retrouver par lui-même le plus de grains possible de cette expérience. Dès lors, la microphénoménologie tient sa force, sa légitimité, sa cohérence, mais aussi son autonomie et son autosuffisance, pourrait-on dire, dans cette opérativité pratique, dans cette heuristique de surprise cognitive, de découverte de nouveaux aspects du vécu. Pour prendre une analogie, un praticien ou une praticienne zen vérifie lors de chaque assise l'efficience de son assise. Il reconnaît son auto-finalité au point de juger inutile tout discours porté sur la pratique et a fortiori toute théorisation. Ma question sera donc, dans quelle mesure la microphénoménologie requiert-elle un mouvement de théorisation d'elle-même pour se légitimer, pour s'établir, Et mon objectif aujourd'hui sera de tenter de montrer que cette théorisation, elle est non seulement légitime, mais elle est aussi nécessaire, et que pour barrer la voie à un risque, du coup, toujours émanant, on l'a vu, de régression à l'infini, eh bien, j'ai choisi de proposer l'esquisse, aujourd'hui, d'une phénoménologie de la microphénoménologie, et non d'une microphénoménologie de la microphénoménologie. Et j'espère ainsi, c'est pas seulement une pirouette ou voilà, une terminologie différente, mais j'espère ainsi éviter un redoublement qui pourrait être source de confusion, et ouvrir une différenciation modale suffisante pour permettre de dégager un plan d'explicitation qui, pour autant, n'est pas séparé de la pratique de l'explicitation microphénoménologique. Donc c'est un peu un équilibre précaire, instable. Et dans ce qui suit, donc, je vais esquisser quelques propriétés, composantes ou traits de cette phénoménologie de la microphénoménologie en guise d'amorce d'un travail qui est en cours d'élaboration. Alors cette esquisse et cette élaboration, c'est aussi pour moi aujourd'hui l'occasion d'un hommage à Pierre Vermersch, ce psychologue de l'école de Piaget, de Jean Piaget, fondateur de l'entretien d'explicitation microphénoménologique et qui nous a quittés trop rapidement, trop brutalement le 6 juillet 2020 dernier, chercheur hors pair dont la pratique exploratoire et la curiosité infinie auront au fond été la matière même, l'activité même de sa théorisation incessante et toujours en cours de déploiement. Et j'aurai à l'esprit à cet égard sa manière de faire de la recherche, lorsque je vais décliner devant vous quelques premières propriétés de cette phénoménologie, de la microphénoménologie, en espérant, en toute modestie, me rapprocher quelque peu de sa manière. Donc je passe maintenant à un deuxième temps concernant la microphénoménologie en tant que telle. Décliner donc ces traits caractéristiques de la microphénoménologie, cela revient à commencer de procurer à cette dernière une assise philosophique, à savoir découvrir une ontologie possible qui traverse sa méthodologie et une épistémologie qui pourrait la travailler. Et en effet, certains traits m'apparaissent relever davantage d'une dimension épistémologique propre à accroître sa validité. D'autres répondent peut-être davantage à une dimension ontologique qui caractérise le mode d'être de certains de ces phénomènes principaux. Bien entendu, étant donné le stade encore préliminaire et prospectif de cette recherche, je serais évidemment très intéressée à des échanges et à des discussions ultérieures. Alors, pour esquisser une telle phénoménologie de la microphénoménologie, il y a un prérequis, c'est évidemment de vous donner à voir et à entendre plus avant ce qu'est la microphénoménologie, que j'ai vraiment pour l'instant juste esquissé de manière très préliminaire. Car il me semble que seule une entrée justement pratique et incarnée dans cette méthode vous permettra, me permettra peut-être, d'essayer d'étayer, de valider la mise au jour de sa philosophie spécifique. Évidemment, dans le cadre d'une conférence de ce type qui a portée temporelle limitée, il va m'être difficile de déployer la profondeur des attendus expérientiels de cette pratique descriptive. Cette pratique, elle fait l'objet de stages de formation de 5 jours, donc d'une trentaine d'heures, pour vous donner une idée, sont souvent réitérés à plusieurs reprises et pour faire mûrir la pratique, justement, et à partir de là, pour permettre une mise en pratique dans le cadre d'entretien de cette pratique initiale. De la même manière, c'est une analogie que quand on devient psychanalyste ou thérapeute familial, eh bien, on devient vraiment compétent avec ses patients et pas au moment de la formation elle-même. Aussi, pour commencer, plutôt que de présenter ex cathedra ce qu'est la microphénoménologie, ce serait pour le moins contradictoire. Je vous propose d'y entrer in media res par un exemple et une expérience qui va du coup vous solliciter, nous solliciter un peu plus activement et qui vous permettra, je l'espère, d'en prendre connaissance en première personne et peut-être de la valider à minima et qui va nous accompagner comme un fil rouge au long de cette présentation, y compris dans le troisième moment où je vais dégager les traits de cette philosophie de la microphénoménologie. Et donc, je vous propose donc de revenir au moment précis où vous vous êtes réveillé ce matin, de décrire en vous-même le micro-processus d'émergence ou le processus d'émergence à la conscience que fut votre moment de réveil. Alors, je n'obtiendrai une description fine de votre vécu et vous-même, vous ne pourrez vérifier la finesse de votre vécu, que si vous revenez précisément à ce moment dans l'Iketnouk de son effectuation. Donc décrire par exemple tout d'abord le contexte, comment vous êtes allongé, comment est la pièce où vous vous trouvez, est-ce qu'elle est spacieuse, étroite, haute, basse, la lumière, la chaleur, revenir au moment précis où le réveil sonne, ou bien où vous vous réveillez avant qu'il sonne, comment vous vous sentez, est-ce que vous êtes dispo, fatigué, comment est votre état émotionnel, est-ce que vous êtes déprimé, serein, cognitif, est-ce que vous êtes dispersé, focalisé, qu'en est-il de vos mouvements éventuels d'orientation interne dans l'espace, du processus interne rapide ou pas de reconnaissance de l'espace, si vous êtes dans une chambre d'hôtel ou dans un autre lieu qui n'est pas votre lieu habituel. Quelques traits comme ça d'esquisse pour incarner à nouveau le moment. Grâce à la méthode de l'entretien d'explicitation, le sujet que nous sommes accède plus finement à son vécu singulier, lequel, ce vécu, est le plus souvent recouvert sous sa représentation générique. Typiquement, en effet, si je vous demande comment vous vous êtes réveillé ce matin et que vous me répondez que, en général, le matin, c'est le réveil qui vous réveille, vous me décrivez en réalité la structure habituelle de votre expérience de réveil ou encore la représentation que vous avez de votre réveil de ce matin, ce que Pierre Vermeersch appellera une classe de vécu. La formulation de votre expérience de ce matin, si elle est formulée ainsi, en général c'est le réveil qui me réveille, eh bien, c'est le résultat implicite et sédimenté d'une multiplicité d'expériences, mais pas celle de votre vécu singulier et unique de réveil de ce matin. Votre réponse, elle correspond d'ailleurs au fond à la description spontanée de votre expérience, dans une sorte de conscience immédiate naturelle. Et c'est ce type de description que l'on lit le plus souvent dans les analyses des philosophes phénoménologues lorsqu'ils se réfèrent à une situation d'expérience. Husserl, par exemple, décrit au paragraphe 27 des idées directrices 1. Je puis déplacer, je cite, « Je puis déplacer mon attention, la détacher de ce bureau que je viens d'observer attentivement, la porter à travers la partie de la pièce que je ne voyais pas derrière mon dos vers la véranda, dans le jardin, vers les enfants, sous la tonnelle. » En dépit du fait que l'énoncé est au temps présent, qu'il contient un déictique, ce bureau, et qu'il se trouve porté par un jeu qui est situé dans un espace concret et familier de vie, tous ces marqueurs étant des marqueurs d'une prise de parole incarnée, c'est l'expression aussi de Pierre Vermeersch, en dépit de cela, l'exemple reste générique et la description structurelle. En fait, l'indicateur de cette généricité structurelle de l'expérience, c'est le mode de la possibilité qui ouvre la description. Je puis déplacer mon attention. Edmund Husserl a pu vivre cette expérience des dizaines de fois. Il nous restitue en réalité une expérience structurelle de déplacement attentionnel dans laquelle, bien entendu, nous pouvons entrer, que nous pouvons voir réeffectuer pour nous-mêmes selon un mode de transposition en imagination, qui est propre d'ailleurs au niveau phénoménologique de la possibilité, qui est caractéristique de la proposition husserlienne, laquelle s'alimente au mode mathématique qui est le sien, hein, de l'hypothèse et de la proposition conditionnelle, admettons que, si l'on s'en rapporte à. Mais ce vécu attentionnel n'a ici rien de singulier, et donc, conséquence directe, la description reste menée à gros traits. La méthode de l'entretien d'explicitation, rebaptisée récemment microphénoménologique, par contraste, eh bien, c'est une discipline de description fine de microprocessus corporels, cognitifs, attentionnels, émotionnels, imageants, d'un moment spécifié, vécu par un sujet à un moment donné et dans un lieu précis. Et dans la filiation de cette discipline husserlienne de description des vécus de conscience, Pierre Vermeersch, puis Claire Petit-Mangin, que je cite également, avec un souci de situer cet entretien d'explicitation microphénoménologique sur le terrain de la recherche scientifique, font le choix d'une description affinée et spécifiée, ce qui, par rapport à Husserl, déplace à deux titres le curseur descriptif. Premier point, le vécu est singulier, spécifié et non générique, structurel. Deuxième point, le niveau de granularité, c'est un terme aussi de Pierre Vermeersch, de la description, est renforcé, ce qui donne lieu à la mise au jour de séquences plus fines, de processus plus détaillés d'émergence du vécu, et à la mise en évidence de moments parfois quasi synchroniques de l'expérience. Alors, je ne vais pas développer ce temps maintenant, mais je renvoie à un article qui a été publié d'ailleurs par Julien à l'occasion du colloque Husserl et les fondements des sciences sur la phénoménologie husserlienne, l'article sur la phénoménologie husserlienne à la lumière de la microphénoménologie, où je développe davantage ces aspects. Et je voudrais en fait aujourd'hui avancer d'un pas à présent et vous proposer donc une première cartographie de ce que pourrait être la philosophie de la microphénoménologie. Cette philosophie, elle est phénoménologique, il me semble, car elle ressaisit des traits directement liés à la dynamique expérientielle en jeu dans la méthode microphénoménologique. Elle prend appui sur elle, elle en produit une explicitation. Et je vais distinguer, à l'heure qu'il est, c'est encore préliminaire, mais je vais distinguer 6 traits, propriétés ou composantes, je ne sais pas encore comment les nommer vraiment, et donc ces traits concernent en fait le statut de l'expérience et du vécu. D'autres, le mode d'accès au vécu par l'entretien, le mode d'accès. D'autres encore, la nature du sujet de l'expérience en jeu, le type de description recueillie, et enfin, le mode d'analyse de ces descriptions. Donc, premier point, premier trait, la singularité du vécu. Donc, l'être du vécu est ici caractérisé, dans cette démarche, par sa singularité. En effet, ce dernier, ce vécu, est situé hic et nunc. Il se produit dans un moment unique et un lieu unique. Mon expérience vécue du réveil de ce matin à l'hôtel est unique, différente de toutes mes autres expériences passées et à venir, différente de toutes vos expériences. Son occurrence, à ce titre, elle est strictement individuelle, en première personne. Elle est insubstituable à tout autre et à certains égards incomparable. Alors l'objection, elle est immédiate, évidemment. Comment objectiver ce vécu unique? Comment le valider? Vécu tellement particulier, voire tellement intime, qu'il pourrait apparaître incommunicable, difficilement communicable à tout le moins. Donc, cette objection, elle est très ancienne, elle est aussi ancienne que la philosophie, d'un certain point de vue. On peut la situer déjà à travers, par exemple, la posture de Protagoras, qui défend contre Socrate la vérité d'une sensation individuelle et isolée, et qui va se trouver mis en cause, évidemment, par Socrate au nom d'un phénoménisme relativiste. Dans l'histoire de la philosophie, cette volonté de faire droit à l'individuel, voire à l'intime, qu'il soit sensoriel ou ressenti, revient régulièrement à travers des postures comme celle du sensualisme, chez Condillac, par exemple, ou d'une forme de subjectivisme idéaliste chez Berkeley. Or, cette objection contre la vérité du senti, du ressenti ou du vécu dans son intimité, il me semble, trouve à s'argumenter dans une conception de la philosophie et de la science caractérisée par sa visée exclusivement légitime en termes de généralité. Et on peut se référer ici à la proposition princeps d'Aristote, il n'y a de sens que du général, ou encore une visée donc, de l'objectivité, selon des critères qu'on connaît bien depuis Emmanuel Kant, l'universalité et la nécessité. Toutefois, il me semble que cette objection, elle s'annule, ou du moins elle se trouve fortement déstabilisée, dès lors que l'on s'ancre dans une conception qui va énoncer qu'il n'y a de science que du singulier, donc contre-proposition, qu'il n'y a de science que de l'individuel. Alors, ça peut apparaître comme une sorte de pirouette inversée, adressée au segment Aristote-Kant, mais c'est aussi une façon de déplacer le curseur et d'argumenter justement en faveur de la validité de la singularité à définir légitimement le vécu de la microphénoménologie. Et à ce stade, de façon encore préliminaire, j'ai en tête de prendre appui sur deux références principales pour étayer cette première propriété. Premièrement, à travers la philosophie de Gilbert Simondon, notamment dans ses ouvrages principaux consacrés à l'individu et à l'individuation, qui mettent en avant, au-delà de l'individu-substance, le processus individuel, incluant le pré-individuel et le trans-individuel, c'est-à-dire qui permettent de penser la singularité à travers la dynamique même de son individuation. Une autre référence, cette fois plutôt issue du périmètre de la linguistique et de la philosophie de l'esprit, m'amènera sans doute à convoquer John Perry, un auteur anglais, et notamment son livre phare de 1993 intitulé « The Problem of the Essential Indexical », qui a été traduit en français. Et ce que Perry nomme l'indexical essentiel, eh bien, c'est le « je » dans sa situation de sujet en première personne. Et en fait, son analyse le conduit, au gré de tout un travail d'exemplification, a fait ressortir une thèse au fond très simple. L'indexical essentiel, le sujet qui dit « je », eh bien, il dit « je » en son nom propre, en toute singularité, au moment même où chaque « je », disant « je », porte en lui-même l'incarnation située de cette universalité. Donc, voilà, c'est deux références pour l'instant encore préliminaires, mais c'est ces références sur lesquelles, il y en a sans doute d'autres, sur lesquelles je voudrais m'appuyer pour avancer sur cette première propriété, donc de la singularité du vécu. Je vais aller un peu plus vite sur les autres propriétés à présent. La question qu'on se pose à partir de là, dès lors qu'on a établi cette première propriété, c'est de se demander, en fait, comment accéder à ce vécu singulier, le mode d'accès. Et les objections, là aussi, sont nombreuses. Elles viennent au fond tout autant de la psychologie que de la philosophie. Et elles se résument, pour l'essentiel, dans l'impossibilité structurelle pour un sujet de revenir à une expérience authentique, pure, pristine, selon les adjectifs que l'on voudra utiliser. Car, c'est l'argument, notre vécu, il est toujours sédimenté, construit, fait de multiples couches passées et imaginaires qui s'entremêlent de façon indémêlable et qui sont notre vécu. Et donc, à partir de là, on mettra en question, à partir de ce constat, le caractère mythique d'un vécu original, sans même parler d'un vécu originaire. Ce vécu ne saurait, sans risquer l'abstraction, être dégagé de ses substructions culturelles et de l'histoire de la vie du sujet. Alors, cette critique, elle est bien connue. Elle a été adressée de manière assez emblématique, par exemple, par Jacques Derrida, à la postulation husserlienne elle-même, d'ailleurs, d'un vécu original et originaire, dit transparent et pur, etc. Et dès lors, la méthode de l'époque, donc cette mise entre parenthèses suspensive de nos représentations culturelles, qui toujours encore inclut de l'altérité, jusque dans cette réduction radicale qu'on trouve dans les méditations cartésiennes, de la réduction à la sphère du propre, hein, donc on isole une sphère pure qui ne serait que moi, où toute altérité aurait disparu, eh bien on pourrait considérer qu'on a affaire là aussi à une abstraction, à une recherche de pureté, qui est tout à fait impossible à faire émerger. Et donc on pourrait se demander si cette époque serait autre chose qu'une exigence méthodique, mais du coup assez idéalisé, de table rase, de représentation préconçue de mon vécu. Serait-elle, en tant qu'exigence idéale, toujours à réopérer, inachevable, comme le disait Merleau-Ponty dès le début de la phénoménologie de la perception, jamais véritablement effectuée, vraie seulement dans l'idéal. En réalité, par contraste, la microphénoménologie, elle n'a absolument pas une telle exigence idéale d'accès à une expérience originale, originaire. Donc elle se distingue de ce point de vue-là de la radicalité, je dirais, d'une époque transcendantale au sens husserlien, avec les critiques que je viens d'évoquer. Elle propose en réalité bien plus modestement de nous référer, je l'ai dit, à une expérience située et unique, et de distinguer mon vécu de ma représentation de ce vécu. Donc le geste interne est assez simple, en fin de compte, et si on veut garder le terme d'époque, au sens d'une mise en suspens, une mise entre parenthèses, d'un écart, eh bien, l'époque de la représentation, c'est-à-dire la mise à distance de la représentation, s'effectue concrètement et fait place au vécu singulier en tant que tel, et interrompt simplement l'idéalisation de l'originaire. Lorsque je prends l'exemple de l'expérience de mon réveil ce matin, je situe et j'établis la référence à un vécu unique. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas avoir des tas de représentations dans mon esprit qui circulent en même temps et qui m'encombrent avant d'atterrir à ce vécu unique. Mais je peux assez facilement faire le travail de discrimination. Et c'est le but de cette époque. Ainsi, je ne prends pas l'exemple d'un réveil en général où s'engouffreraient immédiatement toutes ces représentations de mon réveil qu'il me sera ensuite beaucoup plus difficile, du coup, de court-circuiter. Pendant la description que je vais proposer du réveil, j'éviterai de commencer ainsi. Quand je me réveille le matin, je me sens encore fatigué. Cet énoncé n'est pas faux, mais son incarnation située est pauvre, voire absente. Et l'indication en est visible dans la circonstancielle de temps, le matin, qui réfère à un temps général, une classe d'expérience de réveil du matin, en rien un moment singulier. Donc deuxième propriété, c'est donc cette époque des représentations, vous voyez que j'ai fait descendre d'un cran par rapport à la dimension trop radicale et trop trop maximaliste, je dirais, de l'époque transcendantale. Donc, troisième propriété, une fois que le vécu situé iket nunc a été établi, une fois qu'on a distingué concrètement par une époque, donc effectivement opérée entre le vécu singulier et la représentation de mon vécu, la question qui se pose, c'est comment décrire ce vécu. Donc, troisième trait, troisième propriété, le type de description. Ce vécu se résume-t-il à l'instant de son occurrence ? 7h03 ce matin, quand mon réveil sonne. L'instant où j'ai regardé mon iPhone. Ou au lieu où je me trouve, dans la chambre de l'hôtel de Suède à Nice. Ce serait évidemment réduire ce vécu à son occurrence empirique, spatio-temporelle, ou au mieux à peut-être sa donation objectivée à ma conscience, à savoir à sa face noème, comme on dit en phénoménologie. Et en effet, à travers le segment trop rapide de description que je vous ai proposé il y a un instant, dans la description du contexte, enfin des différentes modalités, j'ai indiqué justement ces différentes modalités du vécu, à la fois diachronique et synchronique. Diachronique, par exemple, le mode d'identification lent ou rapide dans la durée de ma conscience du lieu où je me trouve, comme relié à ma chambre d'hôtel et non à ma chambre chez moi. Dans mon cas, par exemple, je peine ce matin à m'y retrouver. Il me faut quelques instants avant de retrouver où je me trouve. Modalité synchronique aussi, à ce vécu temporel se greffe un mode affectif et un mode cognitif. Il y a un léger trouble en moi, lié à l'hésitation de ne pas savoir où je suis. Dans le temps d'après l'identification, il y a aussi la perception visuelle de la chambre, qui est assez claire, assez tamisée, et un vécu affectif qui peut être à la fois détendu et en même temps, un autre a vécu affectif derrière qui se tient là de légères tensions, et qui est à la fois affectif et organique. En ces quelques traits indicatifs, dans lesquels vous pouvez vous-même vous retrouver, ou pas, préliminaires de mon vécu de réveil, se donnent assez simplement, assez spontanément à ma conscience, dès lors que je tourne mon attention vers le moment de ce matin. La visualisation du contexte plus large du moment, la chambre de l'hôtel, le petit matin, me donne accès assez aisément à ces quelques traits, après quelques instants de remémoration active, volontaire d'ailleurs. Et on a là une première émergence spontanée de nouveaux traits, quelques surprises déjà, le mode cognitif d'hésitation, le mode affectif de tension, qui sont apparus nouvellement, qui n'étaient pas forcément là au tout début. Donc l'objectif de la description microphénoménologique, elle consiste en réalité à passer d'une donation spontanée du vécu, les quelques premiers traits préliminaires. Par exemple aussi, la manière dont Husserl, au paragraphe 27, nous donne cette redirection attentionnelle, la perception visuelle du bureau, la perception sonore des cris des enfants, de passer d'une description spontanée à une description affinée. Et le grain descriptif accru, eh bien, suppose de faire émerger des traits qu'on dira pré-réfléchis ou pré-conscients de mon vécu. Et ces traits ne se donnent en fait que difficilement spontanément. Il demande d'être exhumé par un guidage, et c'est là que l'aide d'un sujet interviewant intervient, qui accompagne le sujet interviewé dans l'exploration plus fine de son vécu par des questions ouvertes en comment, mode comment, comme je disais. Et par exemple, le sujet interviewant commence d'abord par reprendre le fil descriptif de l'interviewé, ce qui a pour vertu à chaque fois de nous réinstaller de façon incarnée dans notre situation d'expérience. Vous êtes dans votre chambre d'hôtel, encore allongé, vous venez de vous réveiller, vous avez les yeux encore fermés, vous sentez une légère tension. Comment est cette tension? Elle apparaît comment? Ou, si vous deviez m'en dire plus, que diriez-vous? Je sens une tension dans mon estomac, puis là, mon cœur qui bat assez vite. En fait, je suis tendu à la perspective de la conférence que je dois donner. C'est même de l'anxiété. En fait, il y a des questions qui défilent en moi. Vais-je y arriver? Mon propos sera-t-il bien reçu? L'action de la question du sujet interviewant fait émerger de nouveaux traits par structure surprenante de mon vécu, c'est-à-dire que je n'attendais pas ou que je ne savais pas être en moi. La tension est plus explicitement reliée, ce vécu de tension est plus explicitement relié à des vécus organiques, proprioceptifs, donc sensation de spasme dans l'estomac ou de battement du cœur, un vécu cognitif d'interrogation qui se projette dans la situation future de la conférence. Bref, la description s'étoffe par explicitation de ces modalités selon une dynamique d'émergence qui est favorisée par la présence active du sujet interviewant. Donc le mode de description, pour le résumer, il est un mode émergent et il fait émerger de nouvelles propriétés. C'est la caractéristique de cette description, dans sa dynamique propre. Quatrième propriété, le sujet de la description. Quelle est sa caractéristique ? Ce que manifeste cette amorce d'affinement de la description par un sujet interviewé, c'est l'apparition de composantes modales du vécu qui n'étaient pas données spontanément à ma conscience dans le contexte initial de mon expérience. Ici, ces nouvelles composantes sont à la fois d'ordre corporel, on l'a vu, émotionnel et cognitif. C'est très nouveau, disponible dans mon vécu, mais inactif initialement. Le déplie, l'étoffe, lui confère une densité, une incarnation plus forte. Il faut à mesure de moi-même un sujet plus incarné, effectivement ancré dans son expérience, dans ses modalités diverses que j'ai déjà indiquées, et l'incarnation des vécus du sujet, du coup, n'est pas une donnée acquise d'avance, a priori, mais elle résulte d'un processus d'émergence à la conscience, qui révèle des traits donc, qui n'étaient pas donnés au départ. Ainsi, mon expérience acquiert en validité et en vérité à mesure de son explicitation à ma conscience. Donc, sujet incarné, plus incarné par le passage, par cette description. Ce sujet, il a aussi une autre caractéristique que je vais décliner maintenant, c'est la cinquième propriété, une deuxième facette de ce sujet. Le sujet de la microphénoménologie, eh bien, il n'est pas tout seul, hein, vous l'avez compris, il n'est pas isolé. Dans la mesure où l'exploration de la profondeur pré-réfléchie de ce vécu, de son vécu, se déploie dans le cadre d'un entretien d'explicitation. Le sujet interviewé se laisse guider par un sujet interviewant, qui l'invite donc par ses questions à explorer son vécu. On peut noter que ce scénario intersubjectif peut prendre différentes formes, même si la forme de l'entretien, c'est la forme standard. Pierre Vermerch a, à partir de 2006, fait droit également à une méthode d'auto-explicitation. Et celle-ci permet au sujet de l'expérience de se relancer lui-même dans son exploration en se posant à lui-même des questions ouvertes et en utilisant dès lors l'écriture comme un support de réverbération intrasubjective de son exploration. Après avoir consigné par exemple ma description dans sa dimension spontanée, à gros traits de mon réveil, je relis ma première description et j'interroge certains segments de mon vécu en les revisitant depuis ma situation d'expérience. Je peux ainsi exhumer de nouvelles modalités de ce vécu, voire de nouvelles microphases. Par exemple, au moment d'ouvrir les yeux ce matin, je suis déjà réveillée depuis quelque temps. Comment suis-je, les yeux encore fermés, mais déjà éveillée? Mes pensées ont-elles commencé à défiler? Une image me revient à ce moment-là, qui n'appartient pas à ce moment de réveil et d'activité cognitive, mais à une scène onirique, donc une image, qui a tout juste précédé mon réveil. Donc, nouvelle propriété qui peut apparaître et qui n'était pas donnée d'avance, de type onirique, de type imagé. Donc, que cette dynamique du sujet, donc dans cette propriété cinquième là, que j'esquisse, soit intersubjective ou intrasubjective, le sujet microphénoménologique, finalement, donc, n'est jamais seul. Et l'autre est toujours présent avec lui, en lui, qu'il s'agit d'un autre sujet ou d'un sujet agissant à l'intérieur de lui-même. Et j'en viens maintenant à la dernière propriété qui concerne cette fois l'analyse des descriptions. Une fois la description, cette description affinée recueillie, donc elle va être concrètement enregistrée et transcrite, l'enjeu va consister à rassembler différentes descriptions, soit des descriptions d'un même sujet à différents moments, donc là par exemple des descriptions du réveil de ce matin, soit des descriptions de plusieurs sujets. Donc, par exemple, si je rassemble toutes vos descriptions du moment de votre réveil de ce matin, eh bien, je vais obtenir un certain nombre de vécus différents, chacun déplié singulièrement, selon des différentes modalités et sous-modalités temporelles, cognitives, affectives, corporelles et imaginatives. Et donc, j'ai alors à ma disposition de multiples traits de vos vécus, qui vont être catégorisés en modalités et en sous-modalités descriptives. Par exemple, la modalité affective anxiété, que j'évoquais tout à l'heure, eh bien, elle va se catégoriser en sous-modalités selon chacune, qui peut être un stress diffus ou qui peut être une angoisse profonde, selon la modulation de l'anxiété, selon votre manière de vous projeter et votre degré d'implication dans une prise de parole future. Ou bien la modalité affective détente, eh bien, elle peut se sous-modaliser en des tentes ouvertes, curieuses, ou en gaieté, joie franche, à la perspective d'écouter des propos renouvelants ou passionnants. Des sous-modalités parallèles peuvent apparaître sur le plan cognitif, soit sous forme de défilement accéléré de pensée, incompressible au réveil, ou au contraire d'un travail d'exercice pour stopper justement ces pensées, pour y mettre un coup d'arrêt. Et on a la même chose évidemment sur le plan physiologique et des images. Donc pour analyser vos descriptions, je vais alors faire varier les modalités, les sous-modalités de ces différents vécus et extraire à mesure ce qu'on pourrait appeler des invariants descriptifs qui permettent in fine de dégager des schèmes, des types et des rythmiques différenciées des vécus de ce réveil. Alors ici, vous aurez reconnu évidemment la méthode husserlienne de variation eidétique, mais revisitée dans sa dynamique expérientielle. En effet, je l'ai évoqué tout à l'heure, le mathématicien de formation qu'est Husserl, même sensibilisé à la psychologie de la forme et des configurations structurelles dynamiques, nous propose, dans sa psychologie phénoménologique par exemple, une méthode de variation, d'extraction d'un invariant, eidos, qui conserve un caractère, qui a dès le départ en réalité un caractère a priori, et qui est guidé en premier lieu par une structure idéalisée de variations qui sont données d'avance, où les données sensibles sont davantage des illustrants de la structure idéale que des moteurs heuristiques de découverte de nouvelles données. Husserl donne un exemple récurrent, structurel, de l'extraction de l'essence invariante du rouge, bien connu, hein, de l'essence du rouge sur la base donc d'un défilement par variation de différentes qualités de rouge en mon esprit. Et évidemment, cette variation dans mon esprit relève davantage d'une hypothèse, d'une possibilité de l'esprit, que d'une effectuation expérientielle proprement dite. De façon assez cohérente avec ce niveau de la possibilité de l'expérience que j'évoquais tout à l'heure, Husserl fait le plus souvent varier des faits en imagination, dans l'ordre du possible, et non dans le cadre d'une expérience singularisée effective qui relèverait d'une véritable expérience, d'une expérimentation d'un certain point de vue, si on veut utiliser le terme scientifique. Donc cette variation expérientielle revisitée, en tout cas l'usage que j'en fais, voire inversée, trouve à cet égard, à mon avis, des alliés plus fidèles dans un travail de typique des vécus sociaux, par exemple, dans la sociologie d'Alfred Schütz. Il me semble que c'est plus dans ce cadre-là qu'il faudrait aller chercher, assistant donc bien connu de Husserl, ou dans la description de la rythmique du vécu temporel et attentionnel, par exemple, qu'on trouve décrite par Karl Stumpf, donc un maître de Husserl, dans sa psychologie du son. Donc c'est là que j'irai chercher en fait des ressources en complément de Husserl, mais en fait pour me permettre de l'inverser et de donner à la variation eidétique un statut suffisamment expérientiel et établi empiriquement. Donc je vais conclure à présent. La phénoménologie de la microphénoménologie que j'ai tenté d'esquisser comprend, on l'a vu, une dimension ontologique et une dimension épistémologique. La première, la dimension ontologique, elle concerne l'être du vécu, caractérisé par sa singularité, et l'être du sujet, caractérisé comme incarné, relationnel et interactif, relationnel-interactif, du fait de la structure d'entretien. La deuxième, la dimension épistémologique, a dégagé trois traits pour l'heure. Le mode d'accès au vécu singulier, donc par une mise en scène d'époquer des représentations, époquée concrète des représentations. Deuxièmement, la validité de la description dans sa dynamique d'émergence heuristique de nouveaux vécus surprenants et de leurs modalités et sous-modalités, qui nous fait passer d'une description spontanée à une description affinée. Et enfin, troisième trait qui relève d'une dimension épistémologique, la validité de l'analyse des descriptions par une variation expérientielle et par une extraction d'invariants entendus comme des types ou des rythmiques. Donc à ce stade, la relation entre ces deux niveaux, ontologie et épistémologie, demande à être précisée. On peut penser qu'il y a un lien entre le vécu singulier, la propriété donc de la singularité, et l'accès à ce vécu par une époquée des représentations. Il semble qu'il y a un lien entre les deux, d'interaction, ou entre la description donc, qui fait émerger des traits nouveaux et l'installation du sujet dans son assise incarnée. Mais évidemment, ceci, pour l'instant, reste à préciser. Alors, je voudrais juste, pour terminer, essayer de situer de façon très, très esquissée cette philosophie dans un certain nombre de territoires actuels de la philosophie, si je puis dire. C'est un petit peu ambitieux, mais bon, c'est juste une esquisse hein, pour donner lieu aussi à des échanges. Dans mon propre parcours, cette proposition, en fait, elle correspond à une reformulation de deux choses que j'avais déjà élaborées en amont. Donc, ce que j'avais nommé en 2001 empirisme transcendantal, selon une expression bon, qui était encore assez provisoire, dans Lucidité du corps, dans ce livre, où j'essayais de tenir ensemble les deux coordonnées de l'expérience vécue et de l'époque transcendantale. Donc, c'était rétrospectivement, je pense, un premier pas, encore assez préliminaire. Et puis ensuite, dans des travaux plus tardifs, entre 2004 et 2012, autour donc, de ce tournant pratique de la phénoménologie ou tournant expérientiel de la phénoménologie, donc à travers le travail que j'ai mené en collaboration avec Francisco Varela et Pierre Vermersch notamment, donc cette idée donc, de dégager donc, une dimension expérientielle et pratique caractérisée donc, par la mise en scène d'un sujet incarné et un régime descriptif de vécu singularisé. Donc si j'essaye de resituer un tout petit peu ce que j'essaye de faire aujourd'hui par rapport à ce que j'ai déjà fait, je dirais que ça renvoie à ces deux premières étapes. Et aujourd'hui, en fait, ce qui m'a semblé intéressant, c'était d'essayer de dégager de façon plus complète, même si c'est encore une esquisse, ces différentes propriétés. Et donc l'enjeu, c'est vraiment d'essayer de montrer que cette microphénoménologie, c'est pas seulement une méthode, mais qu'elle a des attendus philosophiques et que c'est important, en fait, de faire émerger cette dimension philosophique que pour l'instant, je ressaisis à travers ces deux dimensions ontologiques et épistémologiques. Ça peut évidemment changer. Voilà, donc bon, c'est une proposition qui est encore à travailler. Il me semble qu'elle elle peut s'argumenter et s'étayer à travers un certain nombre de références, au-delà de la filiation husserlienne, évidemment, même si elle est revisitée et parfois même inversée. Il y a des alliés dans cette démarche qu'on peut faire surgir à travers, comme j'évoquais, les philosophies de Stumpf, de Schütz, de Simondon, de Perry. Et plus largement donc des auteurs scientifiques donc Vermersch et Varela. Il y a sans doute aussi d'autres références à faire jouer. Donc si vous avez des idées, ça m'intéresse. Alors du fait de son souci d'incarnation dans un vécu singulier défini par un sujet situé et relationnel, évidemment cette proposition, elle me paraît dans un premier temps en tout cas assez incompatible avec ce qu'on pourrait nommer un tournant métaphysique de la philosophie. Qu'il s'agisse d'une philosophie d'inspiration phénoménologique ou analytique, ça me semble assez difficile de la mettre en compatibilité avec ce type de virage qui est assez dominant aujourd'hui, aussi bien outre-Atlantique que sur le continent, si je puis dire. Et du fait de son souci méthodologique de validation épistémologique de l'expérience vécue, de sa description et de son analyse, elle me paraît aussi incompatible, assez incompatible avec une philosophie qui serait seulement déterminée par l'identification des structures a priori d'une expérience, donc dans un mode référé initialement à Kant, mais se déployant ensuite évidemment dans toutes les philosophies transcendantales qu'on connaît. En tout cas, une philosophie dont on ne ferait pas jouer en même temps des modalités qui seraient en parallèle établies empiriquement et expérientiellement, dans un jeu de va-et-vient entre référence empirique et structure a priori. Il me semble que si on n'a pas cette interaction, c'est ce que je propose, en tout cas, est difficilement compatible avec une philosophie, je veux dire, transcendantale au sens strict. Donc, pour conclure ma conclusion, au-delà de ces différentiels, j'aperçois quand même deux figures, donc c'est aussi un peu des pierres d'attente ou des perches peut-être tendues, qui pourraient offrir des repères féconds également dans ce cadre. Donc, si on voulait réinvestir un terrain ou un terreau métaphysique, je me tournerais, par exemple, vers la philosophie de Jean Val, dans la mesure où sa métaphysique a une composante existentielle, expérientielle forte. Et donc, il me semble que là, il y aurait peut-être des ressources intéressantes à faire fructifier. Et sur un plan épistémologique, au-delà des références que j'ai déjà mentionnées, je me tournerais, donc c'est vraiment des pierres d'attente, je me tournerais vers la figure de Gaston Bachelard, en vertu de son intérêt croisé pour la science et la littérature, et aussi de ses essais de phénoménologie descriptive minimale et de sa sensibilité à la valeur et à la densité de l'instant vécu. Donc, ce sont des pierres d'attente et voilà, ça demanderait à être exploré davantage, mais voilà, c'est une proposition, hein, donc voilà, heuristique. Merci de votre attention.
Merci beaucoup Nathalie pour cet exposé passionnant qui, à l'occasion d'un retour de la microphénoménologie sur elle-même, pour expliciter ses attendus et ses propres objectifs, a bien montré qu'il ne s'agissait pas justement d'une simple application locale ou d'un développement local de la phénoménologie, mais qu'elle porte en elle des interrogations qui permettent d'interroger, justement de revenir sur la phénoménologie elle-même, qu'il s'agisse du statut du vécu, de la nature de la description à laquelle on le soumet, des instances qui pratiquent la description ou bien qui sont décrites dans la description, et donc et des outils méthodiques qu'on met en œuvre ce faisant, réduction, époquet, ainsi que de la portée qu'on attribue finalement au discours sur lequel on débouche, validité locale, validité personnelle, typique, validité générale. Bon. Et donc je trouve qu'on a ici une illustration particulièrement nette de la façon dont, de cette fécondité de la phénoménologie dont parlait Grégory tout à l'heure, hein, qui ne cesse pas de s'expliciter elle-même à travers justement les formes nouvelles sous lesquelles elle se déploie. Un grand merci donc, nous avons du temps pour la discussion. La discussion est ouverte. Oui, voilà, une première question ici, merci.
Bonjour, Laurent Pietra, j'ai la chance de pouvoir rester assez pour vous poser une petite question. Il me semble que ce dont vous avez parlé, on peut aussi le rapprocher de l'hypnose et de l'entretien hypnotique, et il me semble aussi que ça, si on allait vers cette direction, ça permettrait aussi d'éviter le régressus à l'infini, dans la mesure où ce que vous décrivez me semble nous orienter vers justement un état hypnotique où en fait quand on passe du spontané à l'affiné, on est exactement dans ce qui se passe dans un entretien d'hypnose, voire d'auto-hypnose, où on accède à des contenus toujours plus riches, mais alors pour le coup il me semble qu'il s'agit d'activités de l'esprit qui sont bien différentes dans la mesure où on pourrait rapporter ça à un fonctionnement cérébral différent de différents états de conscience, où on passe d'un fonctionnement neuronal à un fonctionnement astrocytaire, donc c'est pas en fait la même chimie du cerveau, le même fonctionnement du cerveau, et qui donne accès à des états spirituels bien différents. Et alors évidemment, d'un point de vue phénoménologique, il ne s'agit pas de faire une thérapie ou de faire entrer dans un état hypnotique, mais malgré tout, il me semble que ce moment du comment correspond vraiment à ce qui se fait en hypnose conversationnelle. Donc j'aimerais avoir votre sentiment sur ça.
Merci. Merci de votre question. C'est une question très compliquée, hein, évidemment. Moi, je ne suis pas du tout spécialiste en hypnose, ni même, je crois, jamais avoir vécu une hypnose. Donc, c'est vrai qu'en termes d'expérience et en termes de capacité, je suis un petit peu démunie. Donc, je peux être que sur le plan du discours, ce qui est un petit peu, voilà, pas forcément très évident. C'est une question qui est souvent posée quand on s'intéresse à l'entretien d'explicitation à la microphénoménologie, et d'autant plus en fait que dans le parcours de Pierre Vermersch, enfin, il a lui-même fait ce genre de travail. Donc évidemment, dans la méthode de recherche qu'il a développée ensuite, il en reste quelque chose. Et donc votre question, elle est tout à fait cohérente de ce point de vue-là. Hein. Elle renvoie à des éléments de son propre parcours qui se sont déployés autrement ensuite dans la méthode de l'explicitation. Donc ça, c'est la première chose qu'on peut dire. La différence entre l'hypnose et l'entretien d'explicitation, tel que lui-même d'ailleurs l'a présenté, sur Internet, on trouve un certain nombre de choses où il explicite sa distinction, donc c'est assez facile de s'y rapporter. Ce qu'il dit, en tout cas, je vais me faire la porte-parole de ce qu'il dit, puisque je ne peux pas parler moi-même de la chose, c'est qu'en fait, l'hypnose est une... un type de démarche, comme vous l'avez dit d'ailleurs, hein, qui est censé avoir un effet ou une vertu thérapeutique, ce qui n'est évidemment pas le cas de la microphénoménologie, puisque c'est un outil de recherche, essentiellement. Donc là, il y a quand même une différence de finalité qui est forte. Et vous évoquez des dimensions spirituelles. On pourrait dire aussi que dans le cadre spirituel, on a une dimension qui se veut sotériologique, ce qui n'est pas le cas de l'entretien d'explicitation, qui est vraiment un outil de recherche. Donc là, il faudrait vraiment distinguer les finalités. Ça, c'est une première chose. Et puis la deuxième chose, c'est qu'en fait, l'hypnose ne met pas en jeu, et c'est lié, la distinction est liée, ne met pas en jeu un souci de verbalisation et de description en tant que telle, sur laquelle on prendrait appui ensuite pour avancer. Elle peut très bien se déployer pour elle-même et avoir sa vertu en tant que telle. Donc en fait, le rapport à l'expérience est auto-validé par la personne qui fait cette démarche. Ça peut être dans l'interaction avec la personne qui hypnotise, mais en fait, il n'y a pas de visée de description en tant que telle. Donc là, en fait, on court-circuite tous les problèmes qu'on peut rencontrer quand on cherche à décrire ce que j'évoquais, un vécu authentique.
Parce que là, par rapport à ce que vous dites, du point de vue de rapport à quelqu'un qu'on hypnotise, d'accord, mais en revanche, du point de vue des hypnothérapeutes qui travaillent pour se former ou pour devenir de meilleurs hypnothérapeutes, alors là, pour le coup, on développe très très longuement justement cette pratique de description.
Oui, du côté des formateurs.
Oui.
Du côté des formateurs. Mais c'est vrai que du côté de la richesse de l'expérience que vit la personne qui est hypnotisée, finalement, on n'en fait rien de particulier, si ce n'est évidemment pour la personne, c'est un bénéfice pour cette personne. Mais disons que la visée de description en tant que telle et pas recherchée dans le processus, c'est pas ça qui est en jeu. Donc c'est là que je ferai une différence. Après, le noyau que vous évoquez qui serait commun, ça demanderait à être exploré davantage. En fait, c'est vrai qu'il faudrait, moi j'ai pas d'outils pour cela ou de connaissances internes de la chose pour évaluer. Ce qui est difficile, c'est que quand on est dans un processus de relation à un vécu profond, et en l'occurrence c'est à la fois organique et interne, mais que on se donne pas forcément une visée de description ou de verbalisation dans le processus lui-même, d'une certaine manière on est sur un autre, c'est difficile, on est sur un autre terrain, en fait on est sur un autre plan que le plan de la pratique en tant que telle. Qui justement peut avoir un statut thérapeutique. Donc c'est compliqué, en fait, c'est à la fois proche et en même temps, les visées n'étant pas les mêmes, ça rebondit, ça affecte aussi la nature même de ce qui est visé, je pense. C'est difficile c'est ce que je répondrais. C'est vrai que je suis un petit peu en difficulté pour vous répondre jusqu'au bout.
Il y a déjà trois autres questions. Donc, Céline, je sais pas, Marguerite Pascoe et Alexander Schnell. Je vous propose qu'on fasse des
réponses courtes.
Un peu courtes. Non, on va vous poser des questions.
Commençons par les questions.
J'ai la parole de plus. Merci beaucoup, merci pour la présentation. Au niveau des questions courtes, ça tient en quelques lignes. J'ai essayé de la rédiger pour être plus concis. En fait, c'est l'exemple que vous avez utilisé du réveil le matin. Je l'ai trouvé extrêmement intéressant, mais aussi intriguant par rapport à ce travail de microphénoménologie. Parce que est-ce qu'on ne pourrait pas dans vos travaux, est-ce que vous ne pensez pas qu'on pourrait réaliser une hiérarchisation des moments où l'on peut véritablement réaliser une microphénoménologie d'un vécu singulier, selon l'activité que l'on réalise? Et donc, certains vécus seraient beaucoup plus riches à analyser avec la méthode de microphénoménologie par rapport à d'autres. Et pour expliciter ma question, je dirais qu'il y a des moments où la nature de l'activité réalisée, elle impose au sujet de se détacher du vécu passé et imaginaire, de ces classes aussi de vécu, dans son action présente. Ça le ramène à un vécu, une action pure, non mélangée, alors que d'autres encouragent cette démarche. Par exemple, le réveil le matin, je trouve intéressant parce qu'on est vraiment dans cette pureté du vécu, et même, je ne sais pas si c'est un cas isolé, mais quand je me réveille, je suis perdu. Et ma conscience essaie de me rattacher à ces classes, on est lundi, donc je rentre petit à petit dans une sorte de classe et je perds cette singularité du vécu, il n'y a que des sensations finalement. Et donc plus on se réveille, plus on essaie de rentrer dans ces classes pour retrouver nos repères et on perd la singularité et l'authenticité du vécu. Par exemple aussi pour la réhierarchisation, l'activité sportive, qui selon moi, et je ne sais pas si c'est c'est une bonne analyse. Elle nous amène à nous focaliser uniquement sur l'action du corps et tout, et l'affect, le moment présent, plutôt que de chercher des références dans l'esprit par rapport au passé, à l'imaginaire ou autre. Alors qu'en société, quand on parle lors d'une conversation, on essaie de rattacher ça à d'autres éléments qui nous font perdre véritablement cette singularité. C'est-à-dire, je parle avec quelqu'un, j'essaie de me rappeler des éléments dans la conversation qui pourraient rendre la conversation plus intéressante, ce qui arrive jamais, mais j'essaie en tout cas. Et voilà, donc c'était ça ma question. Est-ce que ces moments créent une hiérarchisation dans cette analyse microphénologique des vécus? Merci beaucoup.
D'accord, merci. Merci beaucoup. C'est une question qui est tout à fait intéressante et importante dans le cadre de la microphénoménologie, mais de manière plus large, est-ce qu'il y a une hiérarchie des vécus? Je pense que c'est une question qu'on peut se poser de façon assez large. Donc une hiérarchisation des vécus, bah oui, je pense que de fait, il y en a une. Pourquoi cet exemple du réveil? Je l'ai déjà en fait utilisé à plusieurs reprises. C'est un exemple que j'utilise assez souvent, même quand justement je fais des formations d'entretien à l'explicitation. Parce que je trouve que c'est un exemple qui est très parlant et qui permet d'avoir un instant qu'on peut retrouver facilement, même si, comme vous disiez, on est perdu, mais ça prend du temps. Mais on peut assez facilement se relier à ce moment-là. C'est vrai que c'est un vécu complexe parce qu'il est composé de toutes sortes de choses, mais c'est le cas de tout vécu d'être composé de toutes sortes de choses. Et même si dans le cadre d'une activité sportive, on peut avoir l'impression que c'est davantage le corps qui est en mouvement parce que spontanément on va se dire que c'est du sport, donc c'est mon corps, en réalité c'est pas si simple que ça. Enfin, de toute manière, il y a une stratification de toutes sortes de choses qui m'entourent. Juste pour mettre un peu en perspective, dans le travail de Pierre Vermersch, au début, en fait, il s'est surtout intéressé au déroulement de l'action. En fait, son travail initial, c'est vraiment sur l'action et son déroulé. Donc, en fait, il était effectivement sensible à l'idée que c'est l'action et les moments, les différents segments d'une activité et d'une phase, les phases d'activité, sont plus facilement retraçables, enfin, on les retrouve plus facilement. Que si on est dans un vécu interne. Donc en fait, il y a tout un développement de la microphénoménologie qui est parti de cette focalisation sur l'action et les séquences d'action, et puis qui ensuite s'est intéressé à des expériences plus larges, plus internes, qui mettaient aussi en avant le corps d'ailleurs et les émotions, ce qui n'était pas du tout le projet de Pierre Vermersch au départ. Donc il y a eu un déploiement progressif. Donc dans l'histoire, on pourrait dire qu'il y a une hiérarchie spontanée des vécus qui se déploie. Mais moi, j'aurais tendance à dire que la complexité d'un vécu, elle est structurelle, en fait. Et je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il y a des vécus plus riches ou plus pauvres. Je pense qu'il y a des vécus plus pauvres quand on ne peut pas y accéder spontanément. Tout vécu est pauvre, en fait, quand on démarre. On a l'impression qu'il n'y a rien. C'est assez normal comme constat, où vous êtes perdu, comme vous disiez. Enfin voilà, qu'est-ce qui s'est passé vraiment? Donc au départ, tout vécu est pauvre, et je pense que c'est à mesure qu'on explicite qu'on en découvre la richesse et la complexité. Mais je pense que n'importe quelle expérience est digne, d'une certaine manière, d'être soumise à ce genre d'entretien. Les expériences aussi bien les plus banales que les plus extraordinaires, et là, de ce point de vue-là, je ne mettrai pas de hiérarchie. Je pense que l'extraordinaire comme le banal, au fond, sont redoutablement complexes.
Question, voilà.
Merci beaucoup pour cette communication très bonifiante. Et j'étais très intéressé sur cette question du retour, du regressus ad infinitum. Comment le stopper? C'était déjà la question que se posait Aristote, qui disait à un certain moment dans la division, anam kestenai, non, il faut s'arrêter, c'est nécessaire. Et je me demande dans quelle mesure, quelle est la nature et le statut de l'instant dans ce vécu. Question qui m'a d'autant plus intéressé que vous avez conclu sur l'ontologie de l'être du vécu. Et quelle est la nature de cet instant? Est-ce qu'il est vraiment ce qui permet de stopper la division? Et quelle est la nature de cette indivision, de cette insécabilité de l'instant? Et j'ai été d'autant plus intéressé que vous avez cité à la fin Jean Val, le grand commentateur du Parménide, de Platon, où il est question de l'un, et où il est question aussi de l'émergence de l'être qui vient remettre en question cette unité, et donc cette indivisibilité de l'un. Et donc, on se retrouve devant ici devant une aporie, n'est-ce pas, entre l'indivisibilité et la divisibilité de cet instant. Alors je ne sais pas comment vous percevez et quel est le statut de l'instant ou sa nature dans cette réflexion, dans la microphénoménologie. En tout cas, je vois que vous avez posé une question très intéressante qui montre comment la phénoménologie devait déboucher sur une philosophie.
C'est l'idée. Merci beaucoup. C'est une question qui est très... à laquelle je ne pourrais pas répondre entièrement. Disons que, en fait, quand j'ai évoqué ce risque ou ce danger de régression à l'infini, j'avais plus en tête les difficultés de la réflexivité, donc le fait de poser finalement sans cesse un sujet qui vient observer un autre sujet et qui, dans la psychologie, c'est quelque chose qui a été beaucoup mis en question et discuté. Donc le fait d'avoir une posture qui nous situe quelque part, ça me semblait être un bon moyen, peut-être aussi un peu pragmatique en fait, d'éviter justement ce processus. Donc j'avais plutôt en tête ce moment d'arrêt là. Alors c'est pas sans lien avec la question effectivement de la segmentation. Des moments ou de la division à l'infini des moments dans le temps, et les apories aussi par exemple de Zénon, hein, de Zénon d'Élée, qui sont caractéristiques justement de la mise en scène de cette aporie, hein, concernant le temps. Mais disons que ces deux, là, je pense qu'il y a deux moments différents, deux choses différentes, la réflexivité d'un côté, la divisibilité des moments, en fait, jusqu'où on va, etc. Je pense que par rapport à ce que la phénoménologie dans sa version husserlienne, par exemple, pose comme une sorte de point source, de point originaire, qui reste assez mythique, ou en tout cas a priori, disons que ce que se donne la microphénoménologie, c'est pas du tout la recherche de quelque chose qui... Il n'y a pas de radicalité, en fait. Il ne s'agit pas de prétendre aller au bout de quelque chose, ou de diviser... non plus de rentrer dans des apories de ce genre, puisqu'en fait, le constat est beaucoup plus, comme je disais, modeste, dans la mesure où on se donne la possibilité de décrire plus finement. En fait, on ne prétend pas qu'on va décrire le plus finement possible, ou qu'on va isoler l'instant pur dans une sorte de vision un peu idéale. On n'est pas du tout dans ce cadre-là. C'est quelque chose de très empirique, finalement, où on se dit, on a un niveau spontané de description, on le connaît, on peut le repérer. J'espère avoir pu vous montrer ce qu'on peut faire quand spontanément on se remémore un moment, de manière active, volontaire. Et puis, qu'est-ce qui se passe avec cette méthode d'entretien qui permet de faire émerger plus de traits de façon plus fine, et donc aussi d'avoir au niveau de la temporalité, effectivement, de voir apparaître des phases à l'intérieur des phases, c'est-à-dire le moment du réveil, il est précédé par un moment où je suis peut-être à moitié réveillée, mais pas complètement, un moment où j'ouvre les yeux et là je suis franchement réveillée. Et puis entre ces différentes phases, il y a aussi des moments intermédiaires où je vais avoir les yeux fermés et je suis encore en train plus ou moins de rêver, mais en fait pas complètement. Enfin, vous voyez, donc en fait cette technique d'entretien, elle permet vraiment d'affiner. Donc en fait l'idée, c'est pour ça que je parlais d'une émergence. La description est une émergence, c'est-à-dire c'est quelque chose qui va nous donner une capacité d'affinement, mais qui prétend pas faire le tour et dégager des instants purs. Jamais, en réalité. Donc c'est finalement assez réaliste comme manière de procéder, et avec l'idée qu'on peut avancer dans la description. C'est surtout un processus, mais pas atteindre un résultat qui serait la pureté, parce que dès l'instant où on est dans ce genre de perspective, forcément on va déboucher sur l'aporie et la problématicité. Et en fait, moi je cherche à être en deçà de cela, parce que je pense que dès qu'on commence à poser ces questions-là, c'est des questions finalement abyssales, et où on change de niveau, en fait. Mais je vous remercie pour votre question.
Merci. Une question, Alexander.
Merci, Nathalie, pour cette belle ouverture du colloque. Ce que tu fais montre vraiment que la phénoménologie est vivante et se développe. J'aurais deux brèves questions. La première, J'étais très intéressé par ce que tu as dit à propos d'une phénoménologie de la singularité, l'expérience singulière. Et quand tu as introduit cela, tu as dit que c'était sur le plan, enfin, au niveau ontologique. Et quand tu as ensuite, quand tu t'es tourné vers le niveau gnoséologique, pour ainsi dire, tu as mis en évidence dans ta façon de revisiter la variation. Tu as mis en évidence des moments stabilisateurs, mais qui d'une certaine façon élevaient cette thématisation de l'expérience singulière déjà d'une certaine façon sur un niveau général. Mmh. Et ma question serait, dans ce passage de l'ontologique au gnoséologique, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de creuser davantage vraiment la singularité de l'expérience en tant que singulière pour ne pas, disons, retomber dans le schéma ou servir d'une stabilisation générale. Mmh. Et ma deuxième question, comme on est à Nice, et comme tu avais demandé s'il n'y avait pas d'autres personnes auxquelles on pourrait peut-être faire référence, quand on entend phénoménologie micrologique, au moins sémantiquement, ça évoque la phénoménologie minimaliste de Janicot. Et ma question serait... comment tu situes l'une par rapport à l'autre? Est-ce qu'il y a moyen de, disons, de rendre fructueux aussi, rendre fructueux l'héritage de Janicot par rapport à tes travaux?
Tout à fait. Merci. Merci beaucoup, Alexander. Merci pour ces questions. Je commencerai par la deuxième, parce que c'est plus facile. Enfin, pas plus facile, mais en tout cas, c'est plus en référence, disons, au contexte et puis à Dominique Janicot. C'est vrai que quand j'ai parlé de Bachelard, j'ai évoqué cette expression de phénoménologie minimale ou minimaliste à propos de Bachelard. Je ne sais pas si c'est d'ailleurs le terme de Bachelard en tant que tel. Je crois qu'il parle de il y a quelque chose de cet ordre-là, mais je ne sais pas si c'est l'adjectif exactement. Et c'est vrai que tu as raison, c'est Dominique Janicot qui en a parlé dans plusieurs de ses ouvrages, la phénoménologie en éclat. Et si je me souviens bien, dans son travail, en fait, ce sur quoi il insiste, c'est effectivement, il s'oppose à une phénoménologie qui serait maximaliste, donc qui se voudrait trop radicale, et il cherche à porter son attention sur des phénomènes ordinaires, quotidiens, anodins, en fait, et ça lui semble être une voie, enfin, en tout cas une piste à développer davantage. Donc de ce point de vue-là, on pourrait tout à fait faire alliance. Je pourrais tout à fait faire alliance avec lui. Disons qu'après, ce qui peut-être n'irait pas jusqu'au bout pour moi dans cette perspective-là, c'est le fait que justement il va. Ça revient à la question de je ne sais plus comment.
Salut.
De la hiérarchie des phénomènes. Dans la mesure où, du coup, son propos consiste à distinguer des phénomènes ordinaires et des phénomènes extraordinaires, aussi, je crois, un peu. Enfin, il y a en tout cas cette idée, ou quelque chose d'exceptionnel par rapport à quelque chose qui serait plus disponible spontanément. Et c'est vrai que dans la microphénoménologie, l'idée, c'est justement de ne pas avoir ce genre de hiérarchie, hein, parce qu'en fait, comme je disais tout à l'heure, tout phénomène a sa complexité. Et ce qui peut sembler banal, anodin, en réalité s'avère extrêmement complexe. Et d'un autre côté, ce qui peut sembler extraordinaire est en réalité peut-être une sorte de ballon de baudruche qui en fait n'est pas si extraordinaire que ça. Donc du coup, j'irai pas jusqu'au bout en fait dans cette hiérarchisation. Enfin, mais ça peut être intéressant comme point d'appui, effectivement. Et alors pour l'autre question, qui est une question alors complexe, c'est vrai que le souci de dégager des structures génériques, donc ce que j'ai nommé invariant à partir de Husserl, ou typique ou rythmique à partir de Schütz ou de Stumpf, dégager des structures génériques. Ça peut donner l'impression qu'effectivement, on revient à une généralité. Et donc, on perd de vue la singularité. Ça peut donner cette impression si cette structure générique, eh bien, elle finit par se tenir toute seule, en elle-même, sans plus de connexion avec ce qui a été mis en scène dans son établissement. Et c'est vrai qu'on pourrait relire l'histoire de la philosophie et la formulation de l'a priori, qui est un peu quand même notre cheval de bataille en permanence, en se demandant si finalement, quand un philosophe met en scène un a priori, d'où cet a priori vient-il ? Il n'est pas posé comme ça en l'air. Il a émergé, évidemment, de tout un travail d'élaboration et donc d'expérience aussi. Sauf que ce travail d'expérience et d'élaboration, il n'a pas été mis au jour par ce philosophe la plupart du temps. On arrive au résultat qui est l'a priori. Bon, et puis, toute la philosophie et tous les textes, évidemment, sont censés nous expliquer comment il est parvenu à cet a priori, ce philosophe, bien sûr. Ce que fait la microphénoménologie, c'est justement de restituer le plus finement possible, en fait, tous les éléments qui permettent à cette structure générique qui va émerger de rester en prise sur les moments singuliers de son émergence. C'est-à-dire de jamais se déconnecter de ces moments singuliers, de rester en prise sur eux. Et c'est là, voilà, que d'une certaine manière, le terme de généralité peut-être est gênant, ou généricité est gênant, si on l'entend comme quelque chose qui se décolle et qui, à un moment donné, n'est plus du tout relié, en fait, à l'expérience singulière de départ. Donc c'est là, en fait, que je verrais une différence et peut-être aussi un appel ou un souci, finalement, pour la philosophie de se reconnecter et de garder prise, en fait, explicitement, pas simplement de façon générale, mais explicitement.
Merci. Merci beaucoup pour cet échange. Je pense qu'il est temps que nous passions à la conférence suivante. Encore un grand merci.